Dites-nous ce que vous n'aimez pas chez vous.
Si on se fait tous refaire, on serait des caricatures.
S'il y a une femme sur cette planète avec un plus joli teint comme la présente.
À peu de choses près, parfaite en tout point.
Regarde dans ce miroir, sais-tu ce que je vois? Je vois une jeune femme, ravissante, pleine d'assurance et d'énergie.
Je suis contre la dictature de la beauté.
My Beauty Doctor, le podcast de la médecine esthétique proposé par Clinique Matignon.
Je m'appelle Patricia Delarive, je suis dermatologue, fondatrice du groupe Les Cliniques Matignon. Et avec Myriam Pichard, notre directrice communication, nous avons créé ce podcast dans un but principalement informatif afin de sortir du clivage entre pro et contre médecine esthétique. Nous essayerons d'élever le débat et de communiquer en toute transparence des questions franches auxquelles nos spécialistes répondront de manière nuancée et objective.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast My Beauty Doctor, un espace bienveillant pour parler sans gêne de la médecine esthétique. Fantasmes, tabous, nous oserons toutes les questions et tous les sujets avec nos experts et invités. Aujourd'hui, dans cet épisode, nous avions envie d'aborder un sujet passionnant, la psychologie de l'image. Pour en parler, nous accueillons le docteur Patricia Delarive, dermatologue et fondatrice du groupe Clinique Matignon.
Bonjour Myriam.
Bonjour Patricia. Le docteur Marie-Eugénie Nichagnan, qui est médecin-chef au sein du groupe Clinique Matignon.
Bonjour Myriam.
Et puis Nadia, experte en images et en style.
Bonjour Myriam.
Bienvenue à toutes. Première question Nadia, comment est-ce qu'on peut définir la psychologie de l'image? Qu'est-ce que c'est?
L'image, au fait, fait entièrement partie de notre identité. C'est même, je dirais, un prolongement de notre identité. Elle parle de nous de manière inconsciente, de comme nous, on se perçoit et de comme les autres nous perçoivent. Et si on apprend à la gérer, eh bien, ça peut devenir un formidable outil de communication non verbale.
Mais alors, comment vous savez tout ça? Quel est votre parcours, Nadia?
Alors, après 20 ans de carrière dans la finance au sein de plusieurs banques, j'ai eu envie de suivre ma passion qui a toujours été la mode. L'être humain est le mieux être. Et j'ai décidé de me former. J'ai commencé par Paris et ensuite j'ai complété la formation avec l'Italie, donc à Milan pour commencer. Et ensuite avec une spécialisation en psychologie de l'image avec l'Université de Florence. Vous l'aurez compris, je suis d'origine italienne.
Buongiorno, cara.
Ciao.
Excellent, ouais. Vous avez finalement experte en image et en style, c'est peut-être pas si bien vous définir puisque vous avez de nombreuses cordes à votre arc, notamment vraiment une expertise en psychologie. Comment vous le pratiquez au quotidien avec vos clients?
En réalité, c'est vrai que le travail de conseil en image est souvent perçu encore comme superficiel. On pense que on se contente de donner des conseils au niveau de l'usage des couleurs, des coupes des vêtements, du style qui peut convenir à la personne. Mais chaque rencontre avec cette personne me permet de réaliser qu'on va au fond parce qu'elle se redécouvre. Et il y a vraiment tout un travail sur l'aspect psychologique. Premièrement, les personnes sont très dures avec elles-mêmes. Donc, je travaille sur la revalorisation d'elles-mêmes. Et puis, très souvent, elles n'ont pas conscience de ce qu'elles dégagent. Donc, c'est vrai que c'est une relation intime qui s'instaure. Et voilà. Donc, c'est vraiment bien plus profond que ce qu'on peut imaginer. C'est une redécouverte de soi-même à travers notre rapport avec l'art de s'habiller.
Oui, votre proposition, finalement, c'est un peu au-delà du coaching. C'est vraiment un accompagnement sur la confiance en soi de la personne, si j'entends bien. Est-ce qu'on peut faire un parallèle avec la médecine esthétique et l'approche d'un médecin?
Ah, mais tout à fait. Tout à fait. Moi, votre description, Nadia, je me reconnais tout à fait dans ce que vous dites. On a toujours l'impression que le médecin esthétique, c'est quelque part quelqu'un qui est là juste pour injecter, pour vendre des choses et pour transformer et donner une image identique à tous les patients qui rentreraient comme dans une usine comme ça et qui ressortiraient tous des clones. Et en fait, c'est pas du tout ça. On essaye de s'intéresser vraiment à la personne, à qui elle est. Et à chaque fois qu'elle revient, on a encore une palette qui s'ajoute à une nuance, en fait, qui s'ajoute à la palette de couleurs de sa personnalité. C'est super, super enrichissant.
Alors, comment ça se passe chez vous, Nadia? On vient vous dire, je ne sais pas, j'ai rien à mettre, ou je mets que des sacs, ou alors, quelle est la question première qui est posée?
Bon, on vient me consulter pour des raisons diverses et variées. Mais c'est vrai que c'est souvent dans une période de transition. Ça peut être une transition de carrière, une transition de dizaine en termes d'âge, une évolution au niveau du poids ou une évolution dans la vie privée après un divorce ou lorsqu'on devient maman. Voilà, le dénominateur commun, c'est une transition.
Moi, j'ai bien aimé quand Nadia a dit « les gens se retrouvent ». Parce que ça, je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi, Marie, mais c'est vraiment ce qui fait le plus plaisir quand on traite des patients en médecine esthétique, c'est exactement ça. C'est la personne, elle s'était un peu perdue parce que son visage avait trop changé, parce que justement, il y a des phases de transition, comme vous le dites, exactement la même chose. Ça peut être des phases de transition liées au fait qu'on est moins heureux dans la vie, qu'on a eu des douleurs, des difficultés, des deuils, des divorces. Ça peut être des phases de transition parce qu'on a la ménopause, ça peut être parce qu'on a pris ou perdu du poids. Et nous, on intervient aussi, comme vous, Nadia, dans ces phases de transition. Et c'est vrai que quand un patient, Marie, nous dit « Ah, mais je me suis retrouvée, je me reconnais de nouveau dans le miroir », ça fait plaisir, ça.
Ça, c'est le plus joli compliment qu'on puisse faire à un médecin esthétique, je crois.
Donc, c'est vraiment notre objectif. Et dans ce sens-là, on se rejoint beaucoup. Et voilà, on ne travaille pas beaucoup ensemble, mais on devrait parce qu'on vise exactement le même objectif.
Exactement. Et d'ailleurs, je rebondis encore sur la cliente de ce matin, qui justement n'a jamais fait appel à la médecine esthétique, qui a 50 ans, et qui venait vers moi pour avoir cette image féminine, alignée à son âge, harmonieuse, valorisante. En fait, son objectif, c'est justement de pas faire trop jeune, tout en restant malgré tout moderne. Et puis, elle m'a parlé du visage et elle m'a demandé, et ça, c'était la première fois qu'on me le demandait comme ça ouvertement, qu'est-ce que je conseillerais pour son visage ? Parce qu'il y a forcément un vieillissement naturel. C'est quelqu'un qui a, à mon sens, très bien vieilli. Mais évidemment, il y a les marques de l'âge, c'est normal. Et ce que moi, je recommande, c'est vraiment, il y a des légères modifications qui permettent d'obtenir ce que j'aime appeler un vieillissement maîtrisé et joyeux.
C'est joli de le dire comme ça. Joyeux, ça nous parle beaucoup parce que c'est ça que souvent le vieillissement, bien qu'on peut vieillir très très bien et que les rides ont finalement souvent assez peu d'impact sur le fait que la personne est belle ou pas belle. Par contre, si vous mettez quatre personnes de 20 ans assises sur un banc qui sont juste en train de rien faire et de pas parler et de pas sourire, ils ont des visages en général joyeux ou neutres. Et si vous mettez ces mêmes quatre personnes à 70 ans sur un banc qui ne sont ni en train de parler ni en train de sourire, eh bien, ils auront l'air tristes, en fait, alors qu'ils ne le sont pas. Ils le sont surtout peut-être même moins que quand ils sont peut-être plus joyeux que quand ils avaient 20 ans, mais ils ont l'air tristes. Et j'aime bien cette notion de vieillissement maîtrisé et joyeux.
C'est une parfaite transition, finalement. Là, quand je vous écoute, le vocabulaire employé, il est du vocabulaire du champ des émotions. Et on se concentre là-dessus. J'ai l'impression que vous aussi, Nadia. Donc en ça, nos approches sont très proches. On essaye d'enlever de la sévérité. On essaye de garder quelqu'un frais, moderne. On essaye de gommer quelques marques de fatigue. On essaye donc justement de remettre la joie, le plaisir au centre et cette joie de se découvrir frais dans le miroir. Cette joie de laisser transparaître par sa tenue vestimentaire, par un ou deux accessoires, qui on est, des petits indices comme ça qu'on sème de sa personnalité, ça remet du plaisir, en fait, dans l'existence.
Mais complètement, je rebondis là-dessus, parce que j'aime, moi, utiliser les mots que j'aide les personnes à mettre de la joie et du style dans leur garde-robe pour que, justement, elles se sentent valorisées, alignées avec qui elles sont, et avec ce qu'elles ont envie de transmettre. Mais j'aime beaucoup le mot « joie ». Pour moi, c'est extrêmement important.
Et je trouve super intéressant aussi ce que vous avez dit au début, à savoir que, au fond, vous ne faites pas ça que par le changement de la garde-robe, vous le faites aussi par tout ce que vous dites. Et dans ce sens-là, moi, je me sens aussi complètement concernée dans notre domaine, c'est que nous, on ne fait pas que enlever d'une ride, c'est aussi notre regard sur la façon de ce qu'on va lui dire et comment on va essayer de le rendre aussi moins sévère dans son jugement. Et là, vous avez commencé par ça au tout début, et ça, c'est vraiment très intéressant parce qu'il n'y a pas que le résultat concret de ce qu'on a fait, mais c'est aussi beaucoup comment la personne se perçoit, en fait, et comment on peut l'aider à se percevoir avec plus de tendresse, en fait.
Complètement. Parce que, alors vraiment, je le redis, les personnes se voient toujours différemment que ce qu'elles sont en réalité. Je suis impressionnée par le nombre de défauts qu'elles se trouvent qu'elles n'ont pas. Ou alors, de temps en temps, il y a aussi des personnes qui se focalisent sur un aspect, puis en réalité, faire une autre petite chose serait plus intéressante pour elles, pour l'évolution de l'image.
Mm-hmm. Mais alors, ça rejoint tout à fait ce qu'on fait en consultation, finalement. On peut complètement changer l'état d'esprit de quelqu'un dans ces phases de transition, justement quelqu'un qui viendrait pour un entretien d'embauche, qui se dit j'ai rendez-vous dans une semaine mais je suis un peu stressée, je crois que j'ai l'air fatiguée et puis c'est hyper compétitif, j'ai 50 ans, j'ai plein d'expérience, je suis hyper vive mais j'ai l'impression que mon apparence va me desservir dans ce sens-là. Tout à coup on fait un petit traitement d'acide hyaluronique dans les cernes, on gomme cette fatigue et là la personne elle va tout tranquillement à cet entretien d'embauche avec beaucoup plus de sérénité, avec beaucoup plus de confiance en elle parce que ce petit détail sur lequel elle était en train de focaliser justement et qui était en train d'entamer sa confiance en elle, bah tout à coup, voilà, il est balayé par des petites touches magiques et puis on aborde cet entretien beaucoup plus sereinement.
Oui, et j'ai envie de rebondir vraiment sur la confiance en soi. Parce que je rejoins Patricia qui disait qu'on fait des métiers au fait très semblables. Au fait. On a le même impact sur les personnes. Et je trouve qu'on ne parle pas encore assez de la confiance en soi. Et c'est tellement puissant quand quelqu'un augmente sa confiance en soi et son estime de soi sur tous les aspects de sa vie que ça n'a pas de prix.
Oui, et c'est vrai que c'est quelque chose d'important parce que on parle, nous, dans notre domaine, de dysmorphophobie. Ça veut dire vraiment la personne qui a un vrai problème avec son image, qui va se voir d'une manière totalement pathologique, totalement déconnectée de la réalité, qui va enchaîner les interventions. Ça reste un pourcentage extrêmement réduit de la population, hein, qui du reste n'a pas augmenté, contrairement à ce qu'on pourrait penser au cours des dernières années. Mais en dehors de ça, ça c'est vraiment la personne qui a une maladie, on peut dire, psychiatrique. En dehors de ça, il y a 99% de la population qui n'a pas du tout ça, mais qui peut par moment avoir des baisses de confiance, des baisses d'estime, qui peuvent en grande partie être améliorées par la gestion de l'image. Évidemment pas que ça, mais ça peut contribuer fortement. Et c'est dommage parce qu'on n'en parle pas, parce qu'à partir du moment où ce n'est pas pathologique, on néglige un peu, en fait. Alors que, comme vous dites, Nadia, ça a un impact tellement majeur sur la qualité de vie, sur la relation au monde des gens, que ça peut changer les trajectoires de vie, carrément.
Mais complètement. Moi, j'aurais plusieurs success stories à raconter, mais ce serait trop long ici. Mais ça a vraiment un impact sur la productivité, la performance, sur le mieux-être, la capacité de séduction, sur le rayonnement. J'ai vraiment vécu des jolies histoires de après-coup.
C'est un joli terme, rayonnement.
On aimerait bien en entendre une quand même. Nos auditeurs aiment bien rêver, alors, nous aussi.
Alors, eh bien, typiquement, je vais prendre l'exemple d'un homme, bien. Vu que c'est moins courant. Et c'était, c'est toujours d'ailleurs, un jeune avocat très brillant, mais qui était dans un cabinet d'avocat de renom, mais à un poste de collaborateur normal. Et puis, au fait, c'est sa femme qui m'a contactée en me disant qu'elle souhaitait lui offrir ce cadeau parce qu'elle trouvait que c'est son image, au fait, son allure générale ne rendait pas justice à ses compétences, à son expertise. J'ai été vraiment impressionnée. Je me suis dit, waouh, c'est très chouette qu'elle ose faire cette démarche. J'ai rencontré un monsieur qui, au début, était plutôt fermé. J'ai été très mal accueillie. Je me rappelle, c'était un samedi. Et puis, au fur et à mesure de l'accompagnement, je l'ai vu s'ouvrir et je voyais ses yeux qui brillaient. Et au fait, il a appliqué tout ce que nous avons travaillé ensemble. Et au fait, il a décroché le job de ses rêves, avocat dans un grand groupe de luxe qu'il ambitionnait d'avoir.
Excellent, merci de nous faire rêver.
Ça, c'est une jolie histoire et on peut se dire qu'effectivement, là encore, pas que nos auditeurs pensent que c'est à cause des conseils de style, mais c'est pas que parce que son employeur a trouvé qu'il était mieux habillé qu'avant, mais c'est probablement parce que lui avait acquis une confiance qui fait qu'il dégageait complètement autre chose, hein, dans son discours.
Comment
est-ce qu'on explique ça, un impact aussi grand, alors qu'à la base, on parle d'apparence, en fait. Comment on explique qu'il décroche justement ce poste de ses rêves après ça?
Mais parce qu'au fait, quand on brille à l'extérieur, si on parle d'apparence, eh bien, ça va nous aider à briller de l'intérieur. Et c'est vrai que moi, j'utilise très souvent le mot rayonnement. C'est vrai qu'on me demande aussi régulièrement de pouvoir quantifier les résultats, mais c'est difficile parce qu'en fait, ça a un impact sur l'intérieur. Et je peux pas le chiffrer. Alors j'ai plusieurs histoires comme ça, sans évidemment mentionner les femmes qui ont rencontré le compagnon de vie parce qu'on a modifié au fait ce qu'elles véhiculaient à travers leur image.
Est-ce que vous auriez voulu rajouter quelque chose sur
Moi,
ce sujet?
Moi, j'aimerais poser une question à Nadia parce qu'il y a clairement un trend dans notre société. Enfin, il y a vraiment un peu presque une polarisation par moment entre les gens qui valident complètement et qui sont lucides, j'allais dire, parce qu'évidemment, je suis partie prenante, mais qui sont lucides sur l'impact de l'image et de notre aspect extérieur sur nos relations aux autres, sur ce qu'on inspire, sur ce qu'on dégage. Et puis, au contraire, on a toute une partie de la population qui fait une espèce de négation complète en espérant qu'un jour, l'être humain n'y accorde plus aucune importance et ne s'intéresse qu'à ce que dit la personne, ce que fait la personne, mais plus du tout ce à quoi elle ressemble. Qu'est-ce qu'on vous enseigne sur les bancs de l'université par rapport à cette envie qu'une partie de la population aurait de se détacher complètement? Déjà, est-ce que c'est faisable? Est-ce que l'être humain peut s'en détacher totalement? Et puis, pourquoi il y a tellement de gens qui auraient envie que ça n'ait aucune importance et qui militent presque pour que ça n'ait aucune importance? Oui.
Alors, pour répondre à la première partie, je sais, c'est quelque chose sur lequel on me challenge toujours. On me dit oui, mais des fois, les apparences sont valorisantes et puis on va creuser et il n'y a rien. Oui, et à ce à quoi je réponds, effectivement, mais l'habit ne fait pas le moine, mais il ouvre les portes du monastère. Mmh. Parce que si la première impression qui se fait en 3 secondes n'a pas été positive et n'a pas donné envie d'aller au-delà, eh bien, on n'aura pas constaté qu'au final, derrière, c'est vide. Mais par contre, on peut être aussi positivement surpris. Ça, c'est pour répondre à la première question. Et la deuxième, c'était sur comment les personnes, au fait.
Oui, est-ce qu'on pourrait imaginer que l'être humain, à un moment donné, oui, se détache totalement de ça et pourquoi certaines personnes rêvent d'une humanité qui s'en fiche complètement de l'apparence? C'est quoi la souffrance que ça cache derrière?
C'est que ça va toucher vraiment à la sphère très, très intime. Comme je disais au début de notre discussion, l'image, au fait, notre relation à l'habit, ça fait partie de notre identité. D'ailleurs, j'ai fait une conférence il y a quelques années et on m'avait challengé là-dessus. Et j'ai dit oui, mais déjà venir assister à une conférence où je vais parler de l'impact de l'image, de comment éventuellement la travailler, et puis d'être là à la conférence et d'y assister, c'est déjà de se poser la question, peut-être que je pourrais faire une amélioration. Moi, j'aime le mot évolution dans mon image, donc c'est oser se remettre en question. Et il y en a beaucoup qui ne veulent pas se remettre en question.
Oui, alors ça me parle beaucoup ce que vous dites, parce que je trouve que dans nos patients, on a vraiment on a la majorité des gens qui viennent avec une espèce d'insouciance pour venir chercher du plaisir, pour venir chercher une amélioration de leur confiance en eux. Puis après, on a deux pôles, on a ceux qui visent tout sur l'image et qui sont complètement obsédés par leur apparence extérieure, quitte à négliger tout le reste, et qui souffrent, qui sont dans la souffrance. Et puis, ce dont on parle jamais, c'est qu'on a les autres qui, au contraire, nient totalement l'importance de l'image, mais qui sont aussi dans un extrême, qui sont souvent les haters du reste, qui nous agressent sur les réseaux sociaux. Et au fond, c'est une forme de souffrance aussi, parce qu'ils aimeraient se détacher de quelque chose dont l'être humain a manifestement beaucoup de peine à se détacher. Est-ce que ce serait bien qu'on s'en détache ou pas? C'est une autre question, mais en tout cas, on n'y arrive pas. Et je trouve qu'il y a de la souffrance des deux côtés. Et parfois, nous, on a des patientes, je ne sais pas si Marie, vous avez ces exemples de patientes qui arrivent vraiment fâchées contre la vie à 60, 65 ans. Elles n'ont jamais rien fait. Elles ont milité toute leur vie pour dire, en tout cas, moi, ça m'est égal, mon apparence, voilà, mais maintenant, ça ne va plus, j'en ai marre, il faut faire quelque chose. Mais on sent qu'il y a une énorme souffrance dans le rejet, dans le rejet de l'importance que ça peut prendre quand même dans une vie et dans le relationnel aux autres. Vous avez des exemples comme ça, Marie?
J'ai quelques exemples qui me viennent à l'esprit maintenant, mais souvent, ce sont aussi des gens qui ont été très gâtés par la nature, en fait. Et c'était un peu facile, finalement, à 40 ans, de dire « Non, mais moi, jamais je ferai de médecine esthétique. Moi, jamais j'aurai recours à des soins. » Mais bien sûr, si vous avez une génétique magnifique et si vous avez des traits superbes, évidemment qu'à 40 ans, vous ne ressentez aucunement le besoin de faire quoi que ce soit. Et elles peuvent arriver à 60 ans
un peu fâchées, un peu renfrognées, en se sentant faibles finalement, parce qu'elles ont résisté tout ce temps-là. Mais le temps a fini par les rattraper, et finalement, bah, comme leurs amies, mais qui ont eu recours à 40 ans, elles, parce qu'elles étaient moins chanceuses et moins gâtées, bah, elles finissent par venir, parce qu'il y a une gêne, il y a une expression, et donc elles voudraient se débarrasser de ça. Mmh. Alors, pour celles qui franchissent le pas de la clinique, c'est déjà magnifique, parce que ça veut dire qu'il y a déjà un cheminement personnel, c'est chouette. Mais il y en a beaucoup aussi qui témoignent qu'autour d'elles, elles ont plein de copines qui refusent et qui militent et qui même les stigmatisent, les montrent du doigt en disant « Tu vois, t'as vendu ton âme au diable, t'es allée faire ça !»
Je suis obligée de vous interrompre, docteur Nishanian, parce que justement, dans les contes et les enseignements ancestraux amérindiens, il y a une légende qui explique très bien que quand on montre quelqu'un du doigt, on n'a pas l'image, mais vous pouvez imaginer montrer quelqu'un du doigt, vous pointez le doigt sur une personne, vous avez trois doigts qui se retournent sur vous. Mm-hmm. Et c'est exactement ça, finalement, c'est cette médecine miroir aussi. Et puis finalement, ces gens sont peut-être en souffrance parce qu'eux n'osent pas ou n'ouvrent pas la porte à ces solutions qui existent.
Il y a d'ailleurs forcément quelque chose de cet ordre-là.
Oui, je pense. Et d'ailleurs, la médecine du miroir, comment ça se passe? Vous prenez les personnes avec ce nouveau look ou cet ancien look devant un miroir. Quelle émotion? Qu'est-ce qui se passe dans cette intimité de ce moment-là?
Alors, elles se regardent au fait au niveau du portrait, hein, quand je fais la première étape, qui est celle de la découverte des couleurs idéales. Et on me dit chaque fois, oh là là, j'ai du mal à me regarder en face du miroir, là, comme ça, sans artifice et sans rien du tout. Évidemment, en plus, c'est face à une lumière du jour, donc elle est très, très, très franche, la lumière. Donc, c'est la difficulté à se regarder. Et donc, je travaille toujours sur mettre l'accent sur les points forts du visage. Tout le monde a des points forts.
Et ça se passe la même chose en clinique ?
Oui, je pense qu'il y a quand même en partie liée au fait qu'il y a quelqu'un d'externe. Je pense que ces personnes auraient moins de peine à se regarder si Nadia, vous n'étiez pas juste à côté. Parce qu'on a peur du jugement, on a peur du diagnostic que vous allez poser, de la gravité de son cas.
Hashtag quand dirait Nadia.
Nous, on a ça. On a vraiment aussi la peur du jugement de la part du médecin. Dès qu'on amène des mots bienveillants, on voit qu'en fait, la personne, elle est quand même pas autant en souffrance par rapport à son image, c'est plus qu'elle a peut-être besoin aussi d'une validation extérieure pour dire bon, mais en fait, il y a plein de choses qui vont bien. Mm-hmm. Et puis, plus on met l'accent sur ce qui est bien, en fait, on se rend compte que la personne, elle sait que ça, c'est bien chez elle. Mais en fait, elle ne l'a pas regardé, elle le néglige puisque ça va bien, elle ne le regarde pas, elle ne lui donne pas d'importance. Mais elle sait, par exemple, qu'elle a une belle peau, qu'elle a un joli nez ou qu'elle a des beaux yeux. Mm-hmm. Mais bizarrement, elle va regarder que le menton ou le cou qui descend un peu ou la ride du lion. Et puis, j'imagine qu'en vêtements, c'est un peu pareil. Elle peut savoir qu'elle est mince, elle peut savoir ça, mais elle regarde que ce qui va pas. J'ai les mollets trop gros, j'ai les jambes trop courtes, ou j'ai pas de seins. Enfin, voilà, c'est des choses. En fait, elle va regarder que ça, mais le reste, elle le sait au fond d'elle. Il suffit peut-être simplement de le lui rappeler.
Complètement.
Que le reste va bien.
Et c'est toujours ce qui se passe, au fait, parce que les mollets trop gros, c'est récurrent. Alors je suis là avec mon petit maître, la session silhouette. Je mesure le mollet, je constate, je mesure le mien devant elle, et je dis. C'est qui a le mollet le plus gros? Mais c'est effectivement, il y a un travail de valorisation, en fait, de la personne. Mmh. Et après, elle sait, j'ai envie de dire, avec des faits, quoi. Je l'ai mesuré.
Oui.
Donc, c'est OK, ça va. Mmh. Non, les hanches ne sont pas trop larges. Je les ai mesurées.
Voilà, Oui, c'est vrai, on est très sévères, nous, les femmes. Moi, je suis toujours une éternelle optimiste. Je suis convaincue que c'est pour ça qu'on va un jour dominer le monde. C'est que cette sévérité qu'on a vis-à-vis de nous, on l'a dans tous les domaines et pas que dans le domaine de l'apparence. Et c'est faux de penser que les femmes ne pensent qu'à ça. Elles sont sévères sur tous les sujets. Et cette sévérité fait qu'on progresse quand même. Au final, c'est pas que du négatif. C'est comme ça qu'on progresse dans notre apparence, mais aussi dans notre développement personnel, dans nos compétences professionnelles. Et pour, ouais, c'est aussi, il y a aussi du bon si c'est pas trop sévère et si on sait surtout où aller chercher de l'aide et où aller chercher des moyens de progresser et d'aboutir à un meilleur équilibre.
En effet. Et puis les commentaires bienveillants de quelqu'un qui est expert du domaine, donc une experte en images comme vous, des experts comme nous de la médecine esthétique, ces commentaires bienveillants ont un impact tellement rassurant en fait sur les femmes. Et donc, ça permet de poser un peu les choses et de pouvoir avancer, de pouvoir s'alléger de ces considérations-là.
Je pense que ça, c'est l'impact de notre parole en tant que spécialiste.
Tout à fait. Et c'est vrai que Moi, je dis tout le temps, vous me payez pour que je sois franche, pour qu'on me dise, ah, mais c'est pas vrai. Ou l'environnement proche, l'entourage est toujours, veut pas blesser ou n'ose pas dire les choses, mais si quelque chose ne va pas, parce que je suis aussi là pour le dire, eh bien, je le dis. Et si je pense qu'il y a un petit geste de médecine esthétique qui peut être fait, je le dirai aussi. Enfin, je suis là pour être franche et authentique.
Et tout ce que vous dites a un énorme impact dans la vie des gens. Moi ça m'arrive avec mon âge canonique de recroiser des patientes qui vont me rappeler qu'il y a 20 ans, je leur avais dit ça en consultation. Et que depuis, elles ont valorisé cet élément-là. Ça peut être quelque chose sur leur corps, sur leur visage, mais quelque chose qui les a marqués. On ne se rend pas compte que, comme vous disiez, Marie, le fait qu'un spécialiste mette le doigt sur les belles choses, ça reste hein, et ça nous accompagne longtemps de manière positive.
Complètement. D'ailleurs, j'ai envie de revenir sur un point qu'on a abordé tout à l'heure. C'était le fait qu'on aimerait, dans le futur, que la société se débarrasse de cet impact de l'apparence, de l'image, qu'on soit apprécié pour ce qu'on dit, pour ce qu'on est intérieurement, uniquement, etc. Mais le monde est en train de partir à l'opposé. Je veux dire, on est de plus en plus dans un monde d'image, avec l'essor des réseaux sociaux et la rapidité avec laquelle on communique à travers les images. Il n'y a qu'à voir Instagram. Pour ne citer que celui-ci. Donc, on n'est pas prêt de ne plus attacher d'importance aux apparences.
Ça serait renoncer à son identité aussi, finalement, vu que vous disiez que l'image fait partie de notre identité.
Exactement. Tout à fait.
Oui, c'est juste. Après, avec le côté positif que ça a et le côté négatif aussi, je reste convaincue que les jeunes d'aujourd'hui acceptent plus leurs multiples facettes de leur image. Ils la voient plus, ils la communiquent plus, ils la partagent plus. Mais j'ai le sentiment quand même qu'ils sont davantage dans l'acceptation de toutes les facettes, y compris les mauvais jours, les bons jours. Et puis avec une lucidité quand même sur le fait que le filtre, c'est pas eux. Mais ça fait rien, ça fait partie du jeu. Et ça me semble pas révéler une grande souffrance par rapport à nos grands-mères qui faisaient très très attention de pas sortir sans être coiffées, sans avoir le chignon, avec la robe qui allait. J'ai l'impression qu'il y a une acceptation de toutes les facettes, mais on a bien sûr envie que certaines facettes soient magnifiques et qu'elles impressionnent tout le monde.
Ça va dans une ère d'inclusion.
Moi, je trouve que ça va dans une ère d'inclusion qui me paraît pas dramatique, voilà, avec mon éternel optimisme.
Qui fait du bien. Voilà.
Oh, on va rester sur cette belle note positive. Je vous remercie, mesdames. Je crois qu'on a fait un joli tour du sujet. Vous vouliez rajouter quelque chose, Nadia ?
Moi, je voulais juste demander à Nadia quelles étaient vos coordonnées et comment on vous trouve, parce qu'on a fait juste par votre prénom, donc c'est Nadia Decolle. Oui. Et comment est-ce qu'on vous trouve ? Parce qu'il y a sûrement nos auditeurs qui voudront...
Alors, effectivement, j'ai un site internet, c'est www.styrestrategie.ch ou alors sur les réseaux avec Nadia_StyleStrategy.
Merci à toutes, on a bien fait le tour du sujet. Un merci particulier à Nadia, votre nom de famille, Nadia, pour qu'on puisse vous retrouver éventuellement.
Decolle. En deux mots.
Parfait. Donc, Nadia, vous retrouvez ses coordonnées sous la publication du podcast. Vous aurez son site internet et son compte Instagram. Merci aussi au docteur Patricia Delarive, au docteur Marie-Eugénie Nichagnan. Et à tout bientôt dans un prochain épisode.
Merci.
Au revoir.
Merci,
Myriam. Au revoir.
My Beauty Doctor, le podcast de la médecine esthétique proposé par Clinique Matignon.